Préface de la deuxième édition du livre Les ovnis de l'esprit de Corrado Malanga par Corrado Malanga. Citation. Le tango est la nostalgie de quelque chose qui n'a jamais été, mais que nous aurions voulu qu'il fût. AGB. Quand on amorce une entreprise, on croit toujours savoir où on aboutira. Dans les faits, il est extrêmement rare que la destination finale coïncide avec la destination initiale. Voici de nombreuses années que j'ai écrit le livre que vous êtes sur le point de lire. Vendu à l'époque sans problème à 35 000 exemplaires, il représenta, pour le monde éditorial de l'époque, une nouveauté absolue, en Italie comme dans toute l'Europe. Face à la politique commerciale aveugle des grandes maisons d'édition, qui ne considèrent souvent les livres que comme des opportunités de gain et non comme des instruments d'acquisition de conscience, le texte fut rapidement évincé du marché malgré son succès. Cet ouvrage n'était peut-être pas un best-seller, c'est d'ailleurs bien souvent l'éditeur et non pas le lecteur qui décide du sort d'un livre, mais il provoqua en Italie une évidente révolution dans l'histoire des phénomènes d'abduction. Abduction. Voilà un mot bien étrange, puisé de l'omniprésente langue anglaise qui continue à usurper la culture méditerranéenne en imposant des termes qui se veulent scientifiquement meilleurs que d'autres, mais qui, en réalité, sont souvent privés de signification. Ce terme aurait dû indiquer justement le phénomène d'abduction, c'est-à-dire un enlèvement exogène par rapport à notre planète. Les abductés étaient ces êtres humains qui affirmaient avoir été enlevés, contre leur volonté, par des forces externes par rapport à la Terre. Le phénomène était connu dans le monde anglo-saxon dès les années 50, et les premiers auteurs qui traitèrent à leur manière ce sujet étaient surtout des Américains et des Anglais. Parmi eux, citons Bud Hopkins, peintre new-yorkais qui utilisait des techniques d'hypnose régressive pour permettre aux prétendus abductés de se souvenir de leurs expériences dissimulées au tréfonds de leur inconscient. Par la suite, ce fut John Mack, psychiatre de Harvard, qui publia d'autres textes montrant non seulement que le phénomène d'abduction était réel, mais qu'en plus, il représentait un grand traumatisme psychologique pour ceux qu'il subissait. Carla Turner, dans un livre sur les abductions au féminin, relata des expériences de femmes abductées récupérées à travers l'hypnose. David Jacob, professeur d'histoire de la Temple University, s'était aussi intéressé à ces phénomènes et avait publié des livres riches en récits et témoignages. Si ces abductions avaient bien lieu, cela signifiait que les abductés existaient. Et si les abductés existaient, car visiblement il ne s'agissait pas de mythomanes ou de fous alliés, il devait également exister des abducteurs. Il faut haïr la faute, pas le fauteur. À cette époque, on pouvait discuter du problème de l'abduction, mais personne n'avait envie de parler des causes cachées derrière ce phénomène. Si d'une part les autorités chargées de la compréhension de ces phénomènes, l'État, l'armée, l'Église, les services sociaux, la protection civile, la médecine officielle, l'académie et le monde scientifique ne voulaient pas trop se mouiller, d'autre part, les réponses données étaient souvent privées de contenu. C'est ainsi que les abducteurs étaient, pour les services secrets, des militaires de factions secrètes. Pour l'Église, c'était des démons, tandis que les psychiatres y voyaient un dérèglement du cerveau humain et les militaires, des armes secrètes en mesure de créer des hallucinations dans l'esprit des adversaires. Une chose était sûre, personne ne voulait prononcer le mot extraterrestre. Les extraterrestres ne peuvent pas exister pour l'Église, puisqu'elle considère qu'aux côtés de l'homme, il n'y a que démons et anges. Les extraterrestres n'existent pas non plus pour les militaires, car en affirmer l'existence risquerait de semer la panique dans les rangs des armées, évidemment incapables de s'opposer à des forces technologiques obscures provenant d'autres planètes. Pour les physiciens, il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Par conséquent, tout ce qui concerne la venue d'un extraterrestre sur Terre ne peut exister à cause des milliards de kilomètres qui séparent notre planète des autres. Quand bien même on dépasserait la vitesse de la lumière, les distances seraient impossibles à parcourir. Enfin, pour la classe politique, les extraterrestres ne constituent pas un problème à résoudre, car ils ne votent pas et ne sont donc dignes d'aucun intérêt. Les ufologues. Les seuls qui souhaitaient s'occuper de ces étranges phénomènes, qui apparaissaient alors comme une phénoménologie de niche, se limitant aux expériences de quelques malheureux, étaient les ufologues, c'est-à-dire ceux qui étudiaient le phénomène des objets volants non identifiés, ovnis. Mais qui étaient les ufologues? La diversité était de mise. Il y avait parmi eux des fanatiques pseudo-religieux, convaincus que les extraterrestres étaient des anges qui viendraient nous sauver, qu'ils avaient, par le passé, aidait l'homme à résoudre des problèmes de survie sur Terre et qu'il contrôlait d'en haut l'évolution de cette espèce inférieure. Certains étaient des scientistes, voyant les extraterrestres comme des êtres technologiquement supérieurs, admirables pour leur degré d'évolution technologique qui devait correspondre à une conscience de soi proportionnellement élevée. Puis, il y avait les ufologues persuadés que les ovnis étaient des manifestations tout à fait terriennes produites par des âmes secrètes, russes ou américaines, dont nous n'aurions évidemment jamais dû être informés. Enfin, il existait une branche de l'ufologie qui considérait les ovnis comme un tour de passe-passe de l'esprit. Ceux-ci affirmaient qu'il fallait étudier non pas les aliens, mais les aliénés qui croyaient voir des extraterrestres. Personne ne voulait vraiment découvrir de quoi il s'agissait. Même les ufologues espéraient secrètement que ce phénomène restât à jamais incompréhensible, sous peine de perdre eux-mêmes leur utilité. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends qu'en effet, on ne pouvait pas étudier les extraterrestres sans avoir d'abord étudié l'ufologue qui se penchait sur le protagoniste de l'abduction, l'abducté. L'ufologue était ce que le prêtre était à la religion. Il représentait le trait d'union entre la divinité et l'homme pécheur. Ainsi, l'ufologue était celui qui « confessait » entre guillemets l'abducté, lui donnant souvent une sorte de crédibilité, et qu'il mettait en contact avec son expérience extraterrestre. Mais tout ceci aurait dû inclure, en amont et avant toute autre chose, une pleine conscience du phénomène de l'abduction de la part de l'ufologue. L'ufologue de ces années-là était au contraire devenu tel par autoproclamation. En général, on devient ingénieur parce qu'on a fait des études d'ingénierie. Puis, après avoir obtenu un diplôme, l'État vous donne un titre d'ingénieur. L'ufologue, quant à lui, pouvait se lever un matin et décider qu'à partir de ce moment-là, il se serait défini comme tel, simplement en vertu du fait qu'il avait passé du temps à faire l'ufophile, comme un droit acquis automatiquement. Un passionné d'ingénierie n'est cependant pas un ingénieur, de même qu'un sacristain n'est pas un prêtre. Un ufophile ne pouvait pas être un ufologue. D'ailleurs, le diplôme en ufologie n'existait pas et n'existe toujours pas. A posteriori, on pouvait remarquer que ces ufologues autoproclamés, se considérant comme des penseurs médiocres, avaient imaginé de résoudre les problèmes de leur ego en se consacrant à un objet d'étude auquel personne ne s'était encore attelé. Ainsi faisant, ils allaient satisfaire leur faim de connaissances dans un domaine où, les experts étant inexistants, il leur serait facile de prendre les devants de la scène. Le degré culturel de ces ufologues, en Italie du moins, était fortement bas. Les rares qui avaient fréquenté l'université avaient peut-être beaucoup étudié, mais ils avaient compris bien peu. Et parmi ceux-là, il y avait moi-même. La réalité de la recherche en Italie. De fait, en Italie, il n'existait aucune recherche sur ce phénomène. Ce que l'on savait provenait des quelques livres d'auteurs américains. La revue spécialisée qui en parlait en Italie décrivait des cas et des témoignages d'abductés d'autres nations ou se perdait dans des hypothétiques constitutions d'événements pseudo-aliénologiques du siècle passé en Italie. Ce qui se passait sous les yeux ignorants de tous ne devait pas être raconté. À l'époque où je fis partie d'un célèbre centre national d'ufologie, non sophistiqué qui cachait en réalité le néant, les réunions du conseil rassemblaient certains membres des services secrets ou du second détachement de l'aéronautique ou même du Vatican. Ils dispensaient des conseils à profusion sur la façon dont le centre devait gérer les informations concernant les phénomènes ufologiques sur notre territoire. Mais cette chronique est désormais obsolète. Qu'est-ce que je faisais, moi, dans un tel organisme ? D'une part, je cherchais une réponse à la banale question de l'existence de Dieu, et d'autre part, je parcourais inconsciemment la route qui allait bouleverser mon existence. J'étais convaincu que si nous avions compris qui étaient les extraterrestres, et s'ils existaient vraiment, nous aurions pu leur demander si Dieu existait. Si nous avions demandé à ceux qui étaient forcément plus évolués que les humains, nous nous serions épargnés de nombreuses élucubrations théoriques et des années de dissertations philosophiques. Pendant ce temps, j'avais obtenu mon diplôme de chimie à l'université de Pise. J'avais travaillé à Paris dans l'importante université Pierre et Marie Curie, et j'essayais d'offrir une contribution scientifique au sein de cet organisme d'ufologues, composé de retraités de la poste, de pseudo-journalistes sans journal, d'employés de banque, de prêtres ratés, de jeunes comptables dans l'attente de récupérer l'activité paternelle, de séminaristes à la recherche de leur identité, et d'étudiants redoublant en physique qui n'en finissaient pas d'avoir presque fini leurs études. Chacun tentait d'exprimer le meilleur de soi, et pour ma part, je croyais alors qu'il fallait redoubler d'efforts dans le domaine scientifique, physique, chimie et biologie. Je ne méprisais pas le travail des autres, mais je n'y voyais en fait aucun travail. Juste des affabulations de théoriciens de l'épistémologie de la rhétorique ufologique auxquelles j'étais souvent soumis malgré moi. Je me souviens encore du temps gaspillé pendant les réunions du Conseil où il fallait décider de la définition du mot « ovni ». Pendant qu'on tentait de définir quelque chose qui n'est pas identifié, le territoire italien allait devenir le théâtre d'un grand boom des phénomènes d'abduction. Les premiers pas. C'est alors qu'on me confia la tâche de m'occuper des phénomènes d'abduction en Italie, en commençant par enquêter sur un cas spécifique. Le premier à avoir été étudié et analysé de manière pleinement consciente. En vérité, je n'étais pas si conscient que cela, mais j'étais animé d'une grande volonté de me mettre à l'ouvrage et de démontrer que j'étais en mesure de travailler dans un domaine que personne, en Europe, n'avait exploré pleinement, sauf quelques cas isolés en Angleterre ou en Europe du Nord. Je reconnais également que c'est mon ego qui me poussait à m'atteler à un sujet sur lequel les autres ne voulaient pas se salir les mains. Au fond, croire que j'étais le seul chercheur en Italie à étudier les phénomènes d'abduction nourrissait certes mon ego, mais cela montrait également mon manque de conscience, qui émergeait dans mes comportements face à l'objet d'étude. J'étais l'enquêteur chargé de découvrir ce qui se cachait derrière le phénomène d'abduction. J'étais celui qui, tel un chevalier sans peur et sans reproche, allait contre les règles de la société, découvrait les extraterrestres et indiquait aux religieux que nous n'étions pas seuls dans l'univers, contrairement à ce que soutenaient les doctrines catholiques de la religion d'État. J'étais celui qui démasquait les services secrets dans leur jeu subtil de dissimulation d'un phénomène qu'ils connaissaient en réalité parfaitement. J'accusais les militaires de conspirer avec la phénoménologie extraterrestre et, du haut de ma scientificité, je validais et rendais crédibles mes thèses en flanquant les expériences d'abduction de données et théories scientifiques sur le caractère explicable des phénomènes ufologiques. J'allais des analyses photodensitométriques, effectuées sur des photographies présumées d'ovnis, à l'analyse isotopique des matériaux composant les puces trouvées à l'intérieur des corps des abductés. Je cherchais à comprendre pourquoi l'ytterbium, en tant que lanthanide, apparaissait sur les sols contaminés par les prétendus ovnis. Je le comparais aux analyses effectuées dans d'autres parties du monde, cherchant ses propriétés et son utilisation en tant qu'excellent conducteur à température ambiante, lié au fonctionnement du moteur de l'ovni. Bref, je voulais montrer que j'avais fait des études. Et c'était vrai, j'avais fait des études. Très vite, cependant, j'allais me rendre compte qu'étudier n'était pas suffisant. Il fallait également comprendre. Pourtant, poussé par ma ferveur scientifique de révélateur de mystères, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait quelque chose de déplacé, éthiquement parlant. J'avais démontré qu'on pouvait y comprendre quelque chose. Le système, c'est-à-dire le groupe ufologique où je pratiquais mon activité, m'évinça immédiatement. Pour eux, il était trop dangereux de me laisser faire, parce que les amis conseillers militaires, hommes politiques, francs-maçons et ecclésiastiques n'allaient pas être d'accord. C'est là que, naïvement et en retard par rapport au déroulement de ma vie, je compris que pendant que je cherchais sincèrement à comprendre le phénomène ufologique, les autres voulaient juste être des ufologues. Le livre, l'histoire, l'épuration. Avec l'aide du docteur Moretti, à Gênes, à qui j'avais tenté de faire comprendre l'importance de cette enquête, je me retrouvais de fait à diriger des hypnoses régressives. Moretti, hypnologue réputé, s'était montré disponible, mais, auprès de nombreuses tentatives, n'avait réussi à faire sortir de la bouche du témoin abducté, Valerio Lanzi, aucune déclaration importante. Moretti et l'abducté me demandèrent d'intervenir et, en présence de Moretti, pendant 2 ans et demi, je conduisis une série de séances d'hypnose qui menèrent à l'écriture de ce livre, qui aurait dû en réalité être un rapport interne pour le Centre national d'ufologie et n'était donc pas prévu pour être divulgué. Pour mener ces séances d'hypnose, je me rendais à Gênes en train et je rencontrais Valerio, accompagné d'une de ses amies, dans le cabinet du docteur Moretti. Leur comportement était dicté par l'idée d'y gagner quelque chose. De l'argent, de la publicité, du succès et je ne sais quoi encore. Valerio était entouré de personnes qui voulaient profiter de sa situation. Lui-même souhaitait en profiter, mais il n'en était pas conscient. Aucune de ces personnes n'était intéressée par la compréhension du phénomène et par son explication. Tous semblaient voir en Valerio un cas à diffuser à la télévision. De mon côté, j'en étais conscient et j'essayais de transformer ces tentatives de manipuler Valerio en moments d'acquisition de conscience afin que les gens puissent comprendre l'importance du phénomène pour l'humanité. Il était essentiel de saisir ce qui était arrivé à Valerio, parce qu'il s'agissait d'un moment de réflexion où religion, politique, histoire, science, psychologie et bien d'autres domaines encore étaient revus et confrontés. Si Valerio avait vraiment été enlevé, comme semblait le confirmer son premier témoignage, alors les phénomènes d'abduction étaient réels. Par conséquent, les extraterrestres existaient et nous étions leurs objets d'étude sans le savoir. Ou peut-être étions-nous, sans nous en rendre compte, simplement utilisés. Et s'il en était ainsi, quel en était l'objectif profond? Comment était-il possible que personne ne comprît que l'argent ne servait à rien et que ce qui arrivait à Valerio pouvait arriver à n'importe qui en Italie et dans le monde? Pendant nos enquêtes, je communiquais toujours les résultats des séances d'hypnose à la direction du Centre national d'ufologie. Mais le directeur avait pour toute réponse un bâillement sonore face à la précision de mes récits. L'ufologie italienne ne semblait d'ailleurs pas particulièrement s'intéresser au phénomène d'abduction en tant que tel, son seul but étant de redorer son blason. Quand je rendis le rapport final au directeur du centre ufologique, celui-ci me dit qu'il allait utiliser ses relations pour le faire publier sous forme de livre et qu'il souhaitait en signer lui-même la préface. J'acceptais la publication du texte parce que je voulais que les gens puissent lire ce que nous avions découvert sur les abductions extraterrestres en Italie. Le livre eut tout de suite beaucoup de succès. Mais c'est à cette époque que je me rendis compte que mon centre ufologique de référence conspirait en fait sous différentes formes avec des organismes d'État et des services secrets de plusieurs pays. Je démissionnai donc immédiatement du centre. De son côté, celui qui avait écrit la préface déclara rapidement qu'en réalité, il n'avait d'abord pas lu le texte et qu'il ne s'était rendu compte que c'était un tissu d'idiotie qu'après en avoir écrit la préface. Il m'est arrivé de nombreuses fois de me retrouver dans de telles situations, où des personnes qui semblaient me soutenir éprouvaient soudain le besoin de ravaler leurs mots, reniant sans vergogne leur position et affichant un opportunisme digne des plus importants hommes politiques italiens. Je fus très vexé. Je croyais avoir effectué un travail épique, et je découvrais au contraire que, puisque j'avais débusqué les petits jeux de quelques personnages véreux du centre ufologique, ceux-ci souhaitaient me clouer le bec définitivement. Ce fut l'année où le volant de ma voiture fut saboté. Heureusement, je m'en rendis compte quand j'étais à l'arrêt et non pas sur l'autoroute. Pendant ce temps, à partir du travail effectué sur Valerio, j'avais entrepris un projet beaucoup plus vaste sur environ 250 autres personnes qui, après avoir lu le livre, s'étaient reconnues dans l'histoire d'abduction de Valerio et s'étaient soumises à mes hypnoses régressives. J'avais étudié les techniques d'hypnose ericksonienne, et vu que les ufologues que j'avais contactés pour effectuer ces recherches voulaient tous être rémunérés, j'avais été obligé de me débrouiller tout seul. Encore une fois, le phénomène de l'abduction n'intéressait personne, si ce n'est pour l'appât du gain. De mon côté, je considérais que la connaissance n'avait pas de prix. Dans ma publication suivante, Alieni o Demoni, extraterrestres ou démons, j'allais révéler que les phénomènes d'abduction étaient communs à des centaines de milliers de personnes dans le monde. J'y expliquais que les extraterrestres utilisaient les êtres humains à des fins ignobles, en accord secret avec les militaires de différentes nations. Des centaines de récits, provenant des hypnoses régressives d'abductés, montraient en détail la complicité entre les militaires terriens et certaines espèces extraterrestres. Dans ce texte, j'ai mis en évidence les relations entre les groupes de pouvoir terriens et extraterrestres, et j'ai identifié les différentes espèces de puces que les extraterrestres, à travers des interventions opératoires et chirurgicales, introduisaient dans les corps des abductés inconscients. Face à mes déclarations, un vent de panique souffla sur le centre ufologique que j'avais quitté, notamment sur mes conseillers. Ceux-ci craignaient peut-être que leurs amis militaires ne se mettent en colère, ou ils avaient juste peur de perdre leur image de groupe ufologique sérieux en quête de mystères que les services secrets ne voulaient pas révéler. Tous les membres de la direction se mirent alors contre moi et je me retrouvai seul. Mais peut-être qu'inconsciemment, je l'avais toujours été. Âme, pensée et esprit. Les hypnoses régressives menées sur des milliers de personnes et avec différents groupes de recherche que j'avais organisés entre-temps donnaient toujours les mêmes résultats. Les extraterrestres existaient et ils étaient divisés en différents groupes. Ces groupes étaient en accord secret avec diverses franges du pouvoir de notre planète et les pouvoirs se manifestaient dans le lien entre leurs militaires et les différentes espèces extraterrestres. Les pouvoirs de notre planète était lié aussi bien à la franc-maçonnerie égyptienne qu'israélite, dont provenaient toutes les franges du pouvoir obscur. Tandis que les extraterrestres étaient fondamentalement intéressés par notre âme, nos gouvernants, la franc-maçonnerie, étaient intéressés par l'utilisation de l'abducté de toutes les manières possibles. Si les extraterrestres, de leur côté, utilisaient aussi nos corps pour procréer, les militaires terriens utilisaient des copies de l'abducté sous forme de clonage, comme des golems militaires, pour effectuer des opérations militaires non conventionnelles. Dans les mémoires issues des hypnoses régressives de centaines de sujets, on avait toujours les mêmes déclarations. C'était la part d'âme des sujets sous hypnose qu'ils racontaient. Séparés par une dichotomie par rapport à son essence, elle disait ce qui se passait pendant une abduction. L'extraterrestre était intéressé par l'âme en tant que source de vie immortelle. L'extraterrestre ne voulait pas faire l'expérience de la mort. Dans ce cadre, il utilisait l'abducté, en particulier son âme immortelle, pour se régénérer. L'âme des sujets abductés était presque toujours totalement impuissante face à l'abduction qu'elle avait elle-même du mal à comprendre. Mais qu'était donc cette part d'âme ? Un groupe de vecteurs et tenseurs liés à l'espace et à l'énergie, mais auxquels manquait l'axe du temps. L'âme voyait le temps comme une unité, un seul événement où tout arrivait ensemble. Au cours de nombreuses hypnoses, nous nous rendîmes compte que nous pouvions modéliser la nature de l'être humain avec des groupes de vecteurs qui décrivaient âme, pensée et esprit. Tandis que l'âme avait la conscience, l'espace et l'énergie, mais pas le temps, l'esprit avait la conscience, l'énergie et le temps, mais pas l'espace, qu'il voyait comme un lieu unique fait de tous les lieux. De son côté, la pensée avait la conscience, l'espace et le temps, mais pas l'énergie. Les trois consciences, d'âme, pensée et esprit, étaient impossibles à superposer. Elles apparaissaient comme totalement indépendantes l'une de l'autre. En d'autres termes, nous découvrions que l'être humain était la somme de trois êtres vivants qui, à l'origine, étaient une seule chose et avaient été divisés par quelques événements dont nous n'avions pas conscience. L'être humain, divisé de la sorte en trois consciences, qui représentait en tant qu'archétype la part mentale, qui est la part androgyne de soi, la part de l'âme, qui est féminine, et la part spirituelle, qui est masculine, se faisait manipuler par des êtres qu'il avait par le passé considérés comme des dieux et des démons, mais qui n'étaient que des extraterrestres. La mythologie, elle aussi, racontait parfaitement tout ceci. Platon soutenait en effet que l'être androgyne avait été divisé en deux parties, masculine et féminine, par Dieu, parce que sinon, celui-ci n'aurait pas pu utiliser l'être humain, qui était une créature trop puissante. Dans les traités ésotériques et gnostiques, comme la Pistis Sophia, on parlait d'archonte, qui avait voulu créer des récipients humains contenant l'âme, qui devait leur être asservie éternellement. L'âme était l'expression d'une immortalité que l'extraterrestre convoitait et qui, pour lui, constituait le mythe de Prométhée. Le pouvoir séculaire de notre planète agissait de connivence avec les forces extraterrestres en échange d'un peu d'immortalité. De leur côté, les extraterrestres auraient vécu sous la protection permanente de nos gouvernants qui, à travers les grandes familles puissantes de banquiers, d'industriels et de monarques de la Terre, après avoir acquis la capacité de manipuler l'âme grâce aux technologies extraterrestres, auraient pu vivre éternellement. Pour obtenir ce résultat, il fallait que l'humanité ne sût jamais tout cela, surtout le fait qu'elle avait en elle la structure de la création, qu'elle était elle-même le créateur. Au fur et à mesure, les données étaient révélées et nous découvrions des puces dans le corps des abductés. Nous reconstituions, en plus des abductions extraterrestres, des situations particulières où des militaires, des extraterrestres et d'étranges prêtres s'attelaient à des rituels francs-maçons liés à la sexualité, à la reproduction, à la mort et à la vie immortelle. C'est alors qu'il nous venait à l'esprit des questions auxquelles nous devions répondre. Pourquoi donc, nous, êtres humains divins, ne nous étions jamais rendus compte de l'être ? Pourquoi mourions-nous si nous étions immortels ? La recherche sur les extraterrestres se centrait donc sur l'homme. Nous devions d'abord comprendre qui nous étions, puis, si cela en valait la peine, recommencer à parler d'extraterrestres. Conscience et prise de conscience. Entre-temps, après avoir écrit le livre que vous êtes sur le point de lire, j'en avais écrit d'autres, parmi lesquels « Alieni o Demoni ». J'avais également rédigé des articles qui tentaient d'expliquer scientifiquement, par la physique quantique, le phénomène de l'abduction. À travers des analyses scientifiques, j'avais clarifié la nature des différentes puces que nous trouvions dans le corps des abductés. Nous avions aussi établi un rapport sur le phénomène du pourcentage isotopique qui semblait démontrer, sans l'ombre d'un doute, que le matériau qui les composait n'était pas terrien, données recueillies par analyse de spectrométrie de masse à structure fine. Nous nous étions également consacrés au fonctionnement de notre cerveau et nous avions élaboré de puissantes techniques d'hypnose puis de simulation mentale, SIMBAD, LGO, TCT, qui, à travers de fameux instruments, comme la programmation neurolinguistique, l'utilisation de la croix de l'espace de Pulver, le test des couleurs de Lusher ou l'analyse archétypale du mythe, nous permettaient de créer les conditions psychologiques dans lesquelles le sujet abducté trouvait la voie pour se débarrasser de ce « problème-là », entre guillemets. Au terme de ce parcours, même partiel, les abductés qui cherchaient à se libérer du problème de l'abduction commençaient à manifester d'importantes facultés paranormales. Nous étions convaincus de pouvoir débarrasser les abductés des extraterrestres par la force. Les abductés étaient en mesure d'opposer une résistance à l'abduction, qui perdait de sa vigueur. Mais quelque chose n'allait pas encore. Pendant quelques mois, les abductés se sentaient bien et étaient sûrs d'être guéris. Mais ensuite, les extraterrestres revenaient durement à la charge et reprenaient leur butin d'énergie vitale. Les tentatives pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas étaient frustrantes. L'âme sous hypnose, à laquelle on demandait pourquoi elle s'était fait reprendre, répondait qu'elle se sentait seule. Cette déclaration me mettait franchement les nerfs à vif. J'insistais pour exorciser en quelque sorte l'abducté, au sein duquel logeait ce que l'Église appelait aussi depuis des millénaires « démons », et qui n'étaient autres que des extraterrestres sans corps, qui utilisaient celui de l'abducté pour pouvoir sucer la part vitale de l'âme. Mais plus j'insistais en forçant la main sur les abductés, plus ils retombaient dans le phénomène. Certains d'entre eux se révoltèrent férocement contre moi, me laissant perplexe face à ces réactions. S'ils me considéraient au début comme leur sauveur, tout de suite après, je devenais leur ennemi. Je n'aurais sans doute pas résolu la situation si, à un moment donné de ma vie, je n'avais pas presque totalement perdu la vue. Les yeux de la conscience. Tôt ou tard, tous les problèmes finissent par émerger. Et, dans ce contexte, à un moment donné de ma vie, la pression due à l'émotivité de ce que j'étais en train d'effectuer se reversa sur moi d'un seul coup. A posteriori, j'ai compris pleinement ce phénomène. Mais à ce moment-là, tandis que je vivais ma cécité, je ne comprenais pas qu'en réalité mon corps se rebellait, de manière psychosomatique, à toutes les stimulations du monde extérieur qui me dévastaient, telle la crue d'un fleuve. Au moment où je fus privé de la vue, pour des causes médicales vraiment mystérieuses, je fus pris de panique et seule ma rationalité m'aidait à contrôler ce sentiment. « Du calme et du sang-froid, me disais-je, et voyons si on arrive à en sortir d'une manière ou d'une autre. » Du reste, 17 ans avant, mon œil droit avait subi la même chose. J'avais failli le perdre. Cette fois-là encore, l'étrange comportement de ma vue s'était vérifié après un moment de très fort stress, déterminé par le refus de mon corps envers « la société des chimistes », entre guillemets, c'est-à-dire mes collègues de département, et notamment après une agression verbale de la part d'une de mes collègues. À ce moment-là, mon œil droit, qui manifestait quelques troubles, s'embua en quelques secondes et, au même moment, incroyablement, la lentille droite de mes lunettes se cassa en deux. 17 ans après, suite à une autre agression verbale de la part d'un proche, qui me parut parfaitement injustifiée, je commençais à perdre la vue de l'œil sain. Cette fois, même la cortisone ne fit pas effet. La situation s'aggrava en quelques jours, pendant lesquels, au fil des heures, je voyais de moins en moins. J'étais en train de quitter la communauté des voyants. Cependant, à ce moment précis où je perdais la vue extérieure, j'acquis la capacité à regarder en moi. Encore une fois, je percevais que la société extérieure me rejetait et que, vu qu'elle restait fortement attachée aux lois et aux règles qu'elle s'était données, elle ne voulait en aucun cas laisser la place à mes idées sur le changement, sur le futur, sur les extraterrestres, sur nous-mêmes. Mes idées, développées pendant et après les recherches sur le monde extraterrestre, avaient fini par transformer un ufologue obéissant, persévérant et fidèle aux ordres de ceux qui disaient en savoir plus que moi, en un véritable catalyseur de chaos. Je n'avais alors qu'une seule chose à faire, comprendre pourquoi je me faisais du mal tout seul. C'est ainsi que j'appliquais sur moi-même la procédure que j'avais élaborée et utilisée pour tenter de libérer les abductés de leurs problèmes. J'expérimentais sur moi-même le triade color test, TCT. Cette simulation mentale, que j'avais développé au cours des quelques 20 ans de recherche dans le domaine des abductions allait pouvoir m'être utile. Je n'avais jamais fait de simulation mentale de manière consciente et, surtout, je m'étais bien gardé d'appliquer mes techniques sur moi-même parce que je ne voulais pas en être influencé. Je ne voulais pas, en bon galiléen, être en même temps l'observateur et l'observé, puisque je savais que le principe d'indétermination d'Heisenberg me guettait et me suggérait qu'on ne peut pas être en même temps observateur et objet d'observation. Jusqu'alors, j'avais cru que celui qui effectue les mesures devait se tenir totalement, aseptiquement, loin de l'objet de ses mesures. Pendant les innombrables séances d'hypnose que j'avais effectuées sur les abductés, j'avais très bien géré le phénomène de transfert. Tandis que le sujet revivait en hypnose les moments les plus dramatiques et terrifiants de sa confrontation aux forces extraterrestres, moi, je restais impassible face aux hurlements, souvent bouleversants, qui sortaient de la pièce de ma maison consacrée aux séances d'hypnose. Le test TCT consiste en une simulation dans l'esprit de la présence de trois sphères colorées qui représentent idéalement l'âme, la pensée et l'esprit du sujet, et qui doit en vérifier, à l'aide de techniques précises, l'état de santé. Puis, on unifie les trois essences en une seule, appelée conscience intégrée. Pour plus d'informations, je vous renvoie à mes travaux dans ce domaine. C'est dans ce contexte et pendant cette méditation que je compris plusieurs choses importantes. Je compris que j'avais négligé ma part d'âme, ma part féminine, l'hémisphère droit de mon cerveau, et que j'avais donné trop d'importance à la rationalité du côté gauche et trop d'emphase à l'esprit, c'est-à-dire à la part masculine. Mon âme s'adressait à moi en me disant qu'elle m'avait attendu afin que je comprenne que le fait de vouloir la laisser libre et non dépendante de moi pouvait certes représenter un acte de générosité important, mais que c'était en même temps un acte égocentrique, à travers lequel mon ego cherchait à me faire croire que je pouvais me passer d'une part de moi qui était importante. Je compris que cette approche erronée que j'avais eue était la cause de ma maladie. Je vivais le monde de manière duelle. Il y avait une séparation entre mon âme et mon esprit, entre mon émotion et ma rationalité, entre mon féminin et mon masculin, entre moi et l'autre. Au moment où mes trois sphères d'âme, pensée et esprit s'unirent pour devenir une conscience totalement transparente, invisible, je compris que j'étais ces trois choses ensemble, qu'il n'y avait pas de séparation entre mon intériorité et la réalité extérieure. J'étais simultanément moi-même et toute chose. J'étais aussi l'autre qui venait contre moi. Mon âme m'avait suggéré que j'avais perdu la vue extérieure parce que de cette manière, j'étais obligé, une fois pour toutes, de regarder en moi. Regarder en soi. En quelques heures, le monde m'a paru totalement différent. Désormais, ce qui s'était passé était clair. Moi, je suis l'autre, qui m'apparaît comme un reflet de moi-même. J'avais voulu étudier le phénomène des abductions en restant aseptiquement détaché du problème. Mais ce problème n'était pas l'exclusivité des abductés, il appartenait à tout le monde. Il n'y avait pas les abductés et les non-abductés, il existait des êtres humains. Il ne fallait plus qu'il y ait d'un côté les préposés aux abductés et de l'autre côté les abductés manipulés par des pseudo-experts qui, au fond, ne représentaient rien d'autre que des abducteurs supplémentaires, humains, des abductés eux-mêmes. On entre en contact avec la conscience qu'on a à travers un processus personnel de prise de conscience, et personne ne peut vous enseigner à faire quelque chose que vous-même ne faites pas à la première personne. Les implications de ces observations me firent arriver à une conclusion. Les autres, tous ceux qui s'en prenaient à moi et qui m'avaient provoqué des moments de stress aux conséquences psychosomatiques très intenses, jusqu'à la cécité, n'étaient qu'un reflet de moi-même. Moi, je projetais sur l'autre tout ce que, à l'intérieur, je n'avais pas su dire à moi-même. Il n'y avait pas des « méchants » entre guillemets qui voulaient me faire faire certaines choses. Il n'y avait que moi qui n'acceptais pas moi-même. Je n'acceptais pas de ne pas être compris, c'est-à-dire de ne pas comprendre cette part de moi qui criait à plein poumon « Tu te trompes !» L'erreur apparut immédiatement à ma vue intérieure. J'étais convaincu d'aider les abductés à sortir de leurs problèmes, alors qu'en fait, j'étais en train d'aider moi-même à comprendre que moi aussi, je suis une âme. Je cherchais dans l'autre l'expression de mon âme, et c'était uniquement pour cela que j'avais découvert, avant les autres, l'existence de la part de l'âme dans les phénomènes d'hypnose profonde. Encore une fois, l'autre jouait le rôle d'un miroir pour une de mes exigences. L'autre, qui dans ce cas était représenté par l'abducté du jour, reflétait tout ce que moi, je ne voulais pas voir de moi. ni prendre en considération ma part d'âme. Tout le travail des 20 années précédentes sur les hypnoses régressives me criait « Tu ne vois donc pas que je suis là ? Tu ne vois donc pas que je suis toi ?» Peu après, je compris que je n'avais rien fait d'autre qu'imiter le mythe d'Œdipe. Œdipe veut sauver sa population de l'action du sphinx, archétype du mystère non résolu de soi. La terrible devinette doit être résolue si on ne veut pas arriver à la destruction de la population par les forces obscures incarnées par le sphinx. Œdipe résout le mystère et sauve sa population, mais, en le faisant, il commet des fautes qu'il tente de réparer comme il le peut. Il n'en reste pas moins que lui, aseptiquement et sans se mouiller, comme moi, il cherche à obtenir le résultat final. Sa lutte avec le sphinx est en fait une lutte avec la part intime et cachée de lui-même. Œdipe tue son père et couche avec sa mère, ignorant ce qu'il fait et, quand il comprend ce qu'il a fait, il finira par s'arracher les yeux. En fait, Œdipe ne tue pas son père, mais à l'espace d'un instant, il dit à son esprit, à sa part masculine, de rester de côté parce qu'il doit connaître sa part féminine, qu'il a toujours négligée et qu'il redécouvre alors de la pire des manières. Son rapport sexuel avec sa mère représente l'acte de connaissance dans le monde virtuel de sa part féminine. Œdipe est responsable de sa cécité. Il passe d'un état de schizophrénie, caractérisé par la nécessité spasmodique de résoudre le mystère du sphinx, à la phase où il devient aveugle et paranoïaque. Œdipe guérira de sa paranoïa quand il guérira de sa cécité. Mais dans le mythe, Œdipe ne guérit pas. Cette partie de l'histoire, en effet, n'a pas encore été écrite et n'existe donc pas dans le mythe, mais je pouvais l'écrire. Il ne s'agit pas d'un moment d'égocentrisme, mais d'une nécessité. Retrouver la vue, pour moi et pour Œdipe, signifie juste avoir atteint une parfaite compréhension, fermant le cycle de prise de conscience qui mène notre conscience à devenir consciente de soi. La nouvelle ère commence toujours par une révolution. Tout ceci m'avait irrémédiablement amené à modifier mon rapport à l'aliénologie. Il n'y avait ni extraterrestres méchants, ni extraterrestres gentils. Les extraterrestres non seulement étaient tels, mais ils représentaient cette part de nous qui avait une conscience différente de la nôtre. Nous avions besoin des extraterrestres pour comprendre quelque chose que nous ne voulions et ne pouvions pas voir. L'expérience de l'abduction avait été choisie par notre conscience pour que nous puissions comprendre à travers elle cette part de nous que nous n'avions pas eu la possibilité de voir. C'était nous la création, c'était nous les créateurs de tout, même de la part extraterrestre de nous-mêmes. Nous avions créé l'extraterrestre pour qu'il puisse venir nous chercher, nous enlever pour certains objectifs qui lui appartenaient, mais ainsi faisant, il nous donnait aussi la possibilité de nous poser des questions. Pourquoi l'extraterrestre existe-t-il? Que représente-t-il? Qu'attend-il de nous? En fait, à toutes ces questions, il n'existait qu'une seule réponse. L'extraterrestre sert juste à nous rappeler que nous sommes la création, que nous sommes les créateurs. Que voulaient les extraterrestres? Notre part d'âme? Par conséquent, nous pouvions découvrir, en étudiant les extraterrestres, que nous étions aussi âme. Et découvrir aussi esprit et pensée, et comprendre comment ces trois éléments sont les trois parties divisées de nous-mêmes. Mais qui avait divisé les parties? Les faux dieux créateurs des extraterrestres, qui, à travers cette division de nous-mêmes, allaient pouvoir nous manipuler pour prendre notre part d'âme immortelle afin de figer l'univers dans un éternel présent non évolutif. Les dieux, à travers notre âme, ne mourraient pas et deviendraient donc immortels. Les dieux refusaient cette expérience que nous, inconsciemment, nous avions accepté de faire. Nous avions décidé de venir sur ce plan existentiel en tant qu'être éternel, mais, pour comprendre pleinement ce que veut dire dualité, ce que signifie vivre et mourir, commencer et finir, nous devions passer à travers une particulière expérience de formation, celle de la mort physique. En effet, la conscience est ce qu'elle fait, et pour être tout, pour devenir consciente de soi, elle doit se soumettre à toutes les expériences. C'était justement nous qui, après avoir créé la dualité de l'univers et avoir créé Dieu et démon, nous nous étions volontairement placés entre leurs mains, en leur demandant ou en leur permettant de nous diviser pour pouvoir comprendre ce qu'était la division, la séparation, la dualité. La conscience crée le couteau puis se laisse couper par lui pour comprendre ce qu'elle a créé. Dieu et démon, Shiva et Vishnu dans le mythe, sautent sur l'occasion et, en divisant la conscience, décident d'utiliser cet expédient pour bloquer l'univers entier en un éternel non-être, non-faire, non-progresser, non-apprendre. Et tout ceci par peur de la mort physique. Cette même mort physique dont une personne dotée d'âme ne peut avoir peur, mais qu'elle attend au contraire comme le couronnement de son expérience sur ce plan existentiel. Nous avions désormais compris, et nous pouvions réunifier l'âme, pensée et esprit dans l'être que nous avions toujours été. Une conscience intégrée, et par conséquent, voir à nouveau et comprendre notre vraie nature sous un regard nouveau. De la même manière, nous allions être utiles aux extraterrestres parce que eux, à travers nous, comprendraient qu'ils s'étaient trompés sur le processus d'acquisition de la conscience. On ne peut pas voler l'expérience d'un autre par peur de la faire à la première personne. L'expérience doit être faite. À l'instant où l'on comprend tout ceci, notre conscience, qui est la création, décide que nous n'avons plus besoin de l'expérience extraterrestre. Et voilà qu'elle disparaît comme par enchantement. Dans le même unique instant éternel où l'univers virtuel vit, les extraterrestres comprennent qu'il faut accepter l'expérience, y passer à travers et guérir de la maladie. La maladie, de son côté, ne sera rien d'autre qu'un instant de non-compréhension où chacun de nous se demande quelque chose. Au moment où vous vous donnez une réponse, vous guérissez de la maladie. La nature, totalement psychosomatique de nos événements, nous amène à conclure que nous-mêmes sommes les créateurs inconscients de notre éternel présent, dans tous ses aspects, même les plus enfouis. C'est donc nous la cause du rapport avec les extraterrestres ou du rapport avec notre maladie, qui devient une expression de notre prise de conscience et non pas un effet d'un quelconque objet extérieur qui nous attaque et nous détruit. Une expression de nous-mêmes qui tombons malades pour faire comprendre, à travers notre corps, quelque chose dont nous devons prendre acte. Prendre acte du problème nous fait comprendre et donc guérir. Œdipe retrouvera la vue à l'instant où lui-même comprendra qu'il s'est aveuglé de ses propres mains, pour passer à travers une expérience qui le mènera à comprendre, c'est-à-dire à revoir son être dans sa totalité. J'ai passé des mois à réfléchir pour saisir pleinement tout ceci. Puis je me suis relevé et j'ai écrit la trilogie intitulée « Genesis », un texte qui raconte nos rapports avec Dieu et démons, à travers le mythe, mais aussi selon les suggestions de la physique quantique et de la psychanalyse, et l'utilisation des simulations mentales. J'ai écrit « Evideon »,« Evidendue » et maintenant « Evidentre », qui, à travers la physique quantique, les neurosciences, la thermodynamique et la philosophie, amène le lecteur à comprendre comment nous vivons dans un univers virtuel que nous créons nous-mêmes. Un univers fractal, holographique, bidimensionnel, extrudé sur le troisième axe des énergies. Un univers qui nous apparaît comme duel juste parce que nous croyons qu'il l'est, et nous le créons donc inconsciemment comme nous pensons devoir le construire. Et le voilà qui nous apparaît comme nous croyons qu'il doit être. Mais à l'instant même où notre conscience change et que nous savons que la dualité est juste un moyen pour comprendre l'unicité du tout, alors nous créons notre virtuel comme étant non plus duel et il nous apparaît donc ainsi. Voilà le noyau de la révolution totale qui sera non pas une révolution armée, ni une révolution culturelle, industrielle ou scientifique, mais une révolution de la conscience. L'homme comprend qu'il est un. Qu'il n'existe pas de vide et de plein, de chaud et de froid, de sacré et de profane, mais qu'il existe juste l'existence, qui n'est duel que parce que notre cerveau la voit ainsi. Les neurophysiologistes comme Pribram et Koslin, ou les physiciens tels que Bohm et Aspect, démontrent que c'est bien nous qui créons la virtualité dans sa totalité. Dans les derniers travaux auxquels je me suis consacré, j'ai essayé de démontrer en quoi la clé physique de l'interprétation de l'univers réside dans la compréhension de la nature de la lumière, constituée de photons et d'antiphotons, en rapide interconnexion entre eux. Ceci montre que d'un côté, le duel constitue la virtualité, mais du duel même existe l'unique forme, l'unique essence de tout le cosmos, le photon virtuel. C'est-à-dire ce qui constitue tout, comme une médaille à deux faces, en rapide interconnexion entre elles, à tel point qu'elles apparaissent comme une chose unique. Le duel ne serait donc rien d'autre qu'une expression créée par l'un. Nous sommes comme les joueurs d'une partie d'échecs. Avant la Révolution, nous croyions que l'ennemi se trouvait de l'autre côté de l'échiquier. Nous savons désormais que nous ne gagnons et ne perdons jamais, parce que nous gagnons et perdons simultanément. Nous sommes aussi l'autre joueur et si nous perdons, en réalité, nous avons gagné, parce que nous avons appris de cette autre part de nous qui est meilleure dans le jeu. Nous nous trouvons maintenant dans la phase où nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ce qui lie les deux joueurs et les fait devenir une seule chose, c'est le jeu lui-même. Le jeu est le paramètre caché auquel se réfèrent les physiciens quand ils parlent d'intrication quantique, croisement entre deux photons nés ensemble mais ayant un spin opposé. Les deux photons ne sont pas deux, ils sont un unique événement qui nous apparaît comme duel. Avant la révolution de la conscience, nous aurions pensé que les deux joueurs, ou les deux photons, étaient deux, et ce n'est qu'à la fin de notre parcours de conscience que nous aurions pu apprendre la vérité. Et pourtant, certains d'entre nous se sont rendus compte de tout ceci vers la moitié de la partie. À la moitié de la partie, vous vous rendez compte que votre ennemi, c'est vous-même, que vous avez inconsciemment créé le jeu et que vous ne gagnerez pas et ne perdrez pas. À quoi bon continuer à jouer? Voici la réponse que je me suis donnée. La première partie du jeu, tu l'as faite en faisant l'expérience de la dualité, en vivant le jeu dans la séparation. Maintenant, tu feras l'expérience du jeu dans l'unicité, en sachant que c'est toi, le tout, et qu'à la fin, tous gagneront et perdront ensemble, en acquérant de la conscience. Dans ce contexte, la seule chose qui ne nous est pas donnée de nous souvenir, c'est comment aura lieu le jeu. Pour le moment, nous savons juste que tout finira bien, mais comment seront les différentes phases? La connaissance préalable de ces étapes détruirait en effet la possibilité de faire une expérience vraie. La conscience me dit que c'est comme le film américain où un riche habitant de New York décide d'essayer d'être pauvre et passe une semaine dans le Bronx en tant que pauvre bougre. Ce n'est pas une vraie expérience parce que le riche sait qu'il fait semblant et qu'une semaine après, il sera de nouveau riche. La vraie expérience est celle qui est vécue naïvement, sans savoir qu'on est riche. Nous sommes riches parce que nous sommes tout, mais souvent, nous n'en sommes pas conscients. Aujourd'hui, la physique quantique et la thermodynamique nous disent que le jeu finit bien, qu'à la fin, et il n'y aura ni alien ni aliéné, mais un unique univers holographique où chaque pixel d'hologramme aura la même résolution, conscience, que tout l'hologramme. Les ovnis de l'esprit fut le point de départ de cette recherche. Je croyais étudier le phénomène des abductions extraterrestres, et en fait, j'étais banalement à la recherche de moi-même. Fondamentalement, l'auteur de ce texte n'existe plus. Je ne fais plus d'hypnose ni d'intervention personnalisée pour sauver les personnes des extraterrestres et des aliénés, parce que j'ai compris que chacun doit travailler sur soi-même et, en atteignant l'état de conscience intégrée, retrouver la mémoire de son propre moi. Le reste est vraiment peu de choses. Et dans un contexte d'univers non local, comme dirait le physicien Bohm, celui qui a écrit les ovnis de l'esprit n'est plus parce qu'il n'a jamais été, puisqu'il n'existe ni passé ni futur, mais seulement le présent. Le souvenir du « moi-même d'alors » est en train de s'estomper en moi, jour après jour, le long d'un parcours historique temporel qui ne peut plus revivre et qui ne peut être arrêté puisque la conscience grandit toujours, comme l'entropie du deuxième principe de la thermodynamique. Tôt ou tard, nous devrons arrêter d'avoir peur de nous-mêmes. Quant à moi, je reste là, à « apprendre », entre guillemets, à me guérir, en écrivant la fin de l'histoire d'Oedipe et en construisant le monde heureux. Bonne lecture. Corrado Malanga.